Qu'est-ce que nous avons vu ensemble à date? Nous avons répondu à la question si la reconnaissance pour le pardon reçu de Dieu est le fondement de notre amour pour les autres, pourquoi aimons-nous si mal? Ensuite, nous avons regardé ensemble qu'est-ce qui s'est passé à la croix, le fondement de notre pardon. Ensuite, qu'est-ce qui transformera ce ressentiment ou cette colère envers les autres et envers Dieu en compassion envers les autres et en louange à Dieu? Ensuite, nous avons parlé de l'offense et puis de la différence entre pardonner et remettre ses griefs, qui est très importante. Ensuite, je vous ai parlé un peu de ce que se passe en nous si nous ne remettons pas nos griefs à Dieu au pied de la croix. Et nous recommençons. Alors, qu'implique au juste la remise des griefs? Ce que j'entends par des remises des griefs. Remettre mes griefs à Dieu au pied de la croix, c'est de permettre à Jésus de porter le péché et le pécheur. Ce n'est plus mon fardeau. Alors, qu'est-ce que je fais au juste pour m'enlever ce poids de sentiments sous lequel je suis courbée? Comment remettre à Dieu mes griefs? Voici comment je vois cette libération, comment je permets à Jésus de porter le péché et le pécheur à ma place. D'abord, je nomme l'offense et la douleur que ça me cause. Je nomme l'offense et la douleur que ça me cause. Je discerne d'abord ce qui a été brisé. Pour certains, ça sera le pas le plus difficile. En tant que chrétiens évangéliques, nous avons souvent hérité de certaines valeurs qui nous poussent à nier que les autres aient pu nous blesser, en particulier les membres de notre famille ou les membres de l'Église. Nous avons tendance à nous concentrer tellement sur la manière dont nous avons péché personnellement que nous omettons de reconnaître et de discerner comment les autres ont pu pécher contre nous. Il est important que vous identifiez précisément les torts qu'on vous a faits. Il ne suffit pas d'absoudre approximativement de vagues personnes du passé, d'offenses tout aussi vagues. Demandez au Seigneur de vous aider dans cette exploration personnelle. Ayez également, si nécessaire, recours à l'assistance d'une amie ou d'un conseiller en qui vous avez confiance. Nommez l'offense et la douleur que cela vous cause. Deuxièmement, je fais face au poids et aux conséquences de la blessure. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je fais face au poids et aux conséquences de la blessure. Ne vous éloignez pas trop rapidement de la douleur qui accompagne la blessure que vous avez identifiée. Donnez-vous le temps et l'espace de ressentir ce que veut dire ne pas avoir été aimé parfaitement par un parent, de ne pas avoir été choisi pour l'emploi que vous vouliez, de vivre la séparation ou le divorce, de souffrir à cause d'un choix de votre enfant. En faisant face aux conséquences de la blessure, il faudra parfois faire le deuil de l'amour ou de l'estime que vous ne pouviez pas recevoir. Parlez-en à Dieu et à une amie digne de confiance. Mais faites face au poids et aux conséquences de la blessure. Troisièmement, je laisse au Seigneur libre accès à mon cœur. nous avons identifié le tort, nous avons nommé la personne, nous nous sommes expliqués concrètement de quelle manière elle a péché contre moi. Alors, nous réalisons à quel point nous sommes blessés. Nous commençons ainsi à ressentir la réaction légitime de notre cœur à cette blessure. Dieu veut que nous soyons en contact avec nos réactions émotionnelles envers ceux qui nous ont blessés, afin que nous puissions honnêtement lui remettre nos griefs. Notre Dieu est un Dieu de lumière, un Dieu de vérité, et non des ténèbres ou du déni. Il veut que nous assumions la réalité de nos blessures, même si le processus est douloureux, et que nous fassions honnêtement face à la réalité des faits ou au pied de la croix. Donnons au Seigneur libre accès à notre cœur. Quatrièmement, je libère l'autre, c'est-à-dire mon offenseur, je libère l'autre des attentes que j'ai placées sur lui ou elle. Je libère l'autre des attentes que j'ai placées sur lui ou elle. Nous éprouvons parfois du ressentiment envers les autres, simplement parce qu'ils n'ont pas su vivre conformément à nos propres attentes idéalistes. Par exemple, nos enfants, où nous voulions qu'ils soient Dieu et qu'ils comblent tous nos besoins, comme nos maris. Faisons le deuil des pertes que nous avons subies et remettons nos griefs à Dieu pour ce que nous n'avons pas reçu. Je libère l'autre des attentes que j'ai placées, sur lui ou elle. Et cinquièmement, je laisse mon fardeau à la croix. Nous répondons à l'invitation de Jésus, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Nous nous disposons à recevoir sa puissance pour le faire. Sans sa puissance, nous ne sommes pas capables. Mais nous nous disposons à recevoir sa puissance pour le faire. La remise des griefs n'est pas un acte de volonté qui dépend uniquement de nous. Jean Monbourquet, dans son livre intitulé « Comment pardonner » dit « Cette remise de griefs est avant tout le fruit d'une conversion du cœur » une ouverture à la grâce de pardonner. Cette conversion, même si elle peut être immédiate et spontanée dans certains cas, habituellement naît, mûrit et évolue pendant une période de temps plus ou moins long. C'est important de savoir que personne ne peut déterminer combien de temps la révélation de la douleur et de la libération vont prendre pour vous. Ni vous, des fois. Personne ne peut déterminer combien de temps la révélation de la douleur et la libération vont prendre. Laisser son fardeau au pied de la croix est un acte de foi, de libération et de grâce. À mesure que les liens se dénouent, laissons l'harmonie, la sérénité et la paix s'emparer de tout notre être. Jésus devient notre nouveau mur. Beaucoup ont peur de redevenir vulnérables s'ils pardonnent aux autres. Le mur de la colère et de la protection personnelle, en effet, leur offrait une sorte de barrière naturelle contre les assauts ultérieurs. Le détachement défensif est efficace, mais il résiste aussi à Jésus et à sa sainte protection qu'il nous offre. Grâce à la remise des griefs au pied de la croix, Jésus devient notre protection. Il nous crie, « Laisse-moi te consoler. Laisse-moi me charger de panser tes blessures et te rétablir. Laisse-moi être celui qui fera justice à ta place. Laisse-moi être ta défense, ton mur, ta haute retraite, ta forteresse contre toute forme de mal et de perversion. » Avec Jésus comme nouveau mur, nous pouvons progresser et traiter nos blessures par son intermédiaire. Pardonner dans son cœur ne signifie pas renoncer à la sagesse ou à l'établissement de limites des fois nécessaires autour de notre vie. J'en parlerai lors de notre réflexion cet après-midi sur la réconciliation. Pardonner signifie plutôt que nous pourrons faire face à l'offenseur à partir de notre vrai moi, sachant que Jésus se tient entre nous et l'autre. J'appelle ça aimer son ennemi ou faire du bien à son ennemi. Vous allez dire, quoi? Nancy, quoi? Faire du bien à mon ennemi? C'est absurde. Comment faire du bien donc? Je vous lance le défi. Nous savons protéger maintenant par le mur qui est Jésus. Il reste notre intermédiaire, alors nous pouvons aller de l'avant, imbus de son courage. Luc chapitre 6, versets 27 et 28 disent, « Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. » Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Oh là là! L'amour courageux qui donne selon le besoin pourrait dérouter, troubler, même obliger l'ennemi à faire face à sa malaise intérieure. Notre amour, notre bien, devrait donner à notre ennemi le goût de la vie pour laquelle il a été créé et en même temps le dégoût de ce qui détruit son âme. Nous voyons dans les versets de Luc que nous venons de lire que la pratique du bien est une affaire de prière, de parole et acte. Des fois, ce n'est pas plus compliqué que d'inviter mon ennemi à prendre un café ou de le saluer sincèrement après la célébration de dimanche. Des fois, c'est d'exposer son offense. Des fois, c'est d'imposer des limites. Demandons à Dieu la sagesse. Implorons son secours dans la prière, demandons-lui de nous éclairer sur un plan approprié à notre ennemi qui le ramènera à la repentance. Le principe du don judicieux de l'amour est la clé de la compréhension de ces versets en Luc chapitre 6. N'oublions pas que c'est un don destiné à un ennemi. Tout don, tout sacrifice consenti doit viser la mise à découvert de son cœur et sa guérison. En présentant l'autre joue à ton ennemi, tu atténues son plaisir. Tu démontres clairement que son premier coup n'était pas efficace. Les paroles offertes et les actions accomplies dépendront de l'ampleur de l'offense et de la nature de ton ennemi. La pratique du bien envers une personne qui est foncièrement mauvaise prendra une autre forme que celle envers quelqu'un à qui il arrive occasionnellement de se comporter d'une manière méchante, mais dont le cœur est ouvert à la vérité. Écoutez ce que Paul dit en Romains chapitre 12. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Je vous rappelle ici que nous parlons du bien que moi je fais à mon ennemi. Nous ne parlons pas encore de la réconciliation. Il est difficile de concevoir une façon plus concrète pour faire du bien à notre ennemi que la prière pour elle ou pour lui. Et ce n'est pas facile à faire. Cela demande de la discipline, de permettre à celle qui nous a blessés d'entrer dans l'intimité de notre cœur. Il est impossible de prier pour quelqu'un et de continuer à le détester. C'est une des prières les plus difficiles parce qu'elle va à l'encontre de nos mouvements spontanés. Je me souviens d'une femme qui me tombait constamment sur le cœur et j'étais pas capable de l'aimer et elle était dans notre église. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas correct ni envers elle ni envers toi. Et j'ai commencé à prier d'abord que Dieu me donne la volonté de vouloir l'aimer et puis ensuite de l'aimer. Et c'est fou, et c'est exactement vrai ce que je viens de dire. Il est impossible de prier pour quelqu'un et de continuer à le détester. Et Dieu a guéri mon cœur. J'ai trouvé ça, petite expérience très, très pratique et très vraie. Dieu est fin. De prier pour quelqu'un est de vouloir son bien. Chaque fois que vous priez pour votre ennemi, vraiment prier, vous allez remarquer que votre cœur commence à changer, comme je viens de dire vis-à-vis cette personne. Vous découvrez que votre ennemi est en fait un autre être humain, aimé par Dieu autant que vous. Les murs entre vous et elle s'écroulent tranquillement. Vous découvrez que votre conversation avec elle ou d'elle change de ton et que vous êtes réellement prête à lui faire du bien. Alors, une bonne équation à garder en tête, c'est une soif de rétablissement plus un refus de vengeance plus une pratique du bien qui comprend la prière égale un pardon dans son cœur qui invite à la repentance et qui offre l'occasion de la réconciliation. Une bonne petite équation à garder en tête. Alors, avec l'aide de Dieu, nous avons reconnu notre blessure, nous avons nettoyé notre univers émotif, nous avons découvert le sens de la blessure et nous avons posé nos griefs au pied de la croix. Nous sommes prêtes maintenant à regarder de près le pardon. D'abord, pourquoi pardonner? Deux raisons viennent rapidement à l'esprit. Je ne veux plus vivre avec les sentiments négatifs. Je veux rétablir ma relation avec mon ennemi. Mais qu'en dit la Bible? La Bible me donne trois motivations du pardon. La première motivation, c'est parce que Dieu désire pardonner et je veux imiter mon Père. Dieu désire pardonner et je veux imiter mon Père. Lamentations chapitre 3, versets 31 à 33 nous dit « Le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Même s'il fait souffrir, il reste plein d'amour tant sa bonté est grande. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qui fait souffrir les humains. » Pour que ce désir de pardonner puisse naître en moi et pas juste de déposer mes griefs au pied de la croix, il faut que ma volonté de ressembler au Père soit plus forte que celle de me venger. Et ça, c'est tout un exercice. Il faut que ma volonté de ressembler au Père soit plus forte que celle de me venger. Le premier enjeu de la démarche du pardon est la reproduction en moi du caractère du Père. La reproduction en moi du caractère du Père. Dieu désire pardonner. Moi aussi, je veux apprendre à désirer pardonner. Comment réussir? Écoutez ce que dit Jésus en Matthieu 7, versets 7 à 11. Je vous le lis. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre s'il lui demande du pain ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, comment réussir? La prière. Dieu seul peut susciter en moi ce désir de pardonner. L'abandon est Dieu de plus en plus spontané, des griefs emmagasinés dans la mémoire est l'un des premiers signes du remplacement de la haine par la volonté de désirer pardonner. Deuxièmement, la Bible, la deuxième motivation de pardon que je trouve dans la Bible, c'est parce que Dieu m'a pardonné et je suis reconnaissante. Ça, c'est ce dont j'ai parlé dans la première conférence. Éphésiens 4 nous dit « Soyez au contraire bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » La reconnaissance de me place constamment dans la peau de mon offenseur, une personne au même besoin que moi, une victime comme moi du péché. Et la gratitude me conduit à réfléchir à mon attitude vis-à-vis mon offenseur, alors que la haine s'arrête à sa conduite à mon égard. La gratitude fait que mes pensées ne sont plus monopolisées par le tort que mon ami m'a fait. La gratitude est libératrice. Elle m'extrait de mon problème et replace mon problème devant Dieu. Alors, je pardonne parce que Dieu désire pardonner et je veux imiter mon Père. Je pardonne parce que Dieu m'a pardonné et je suis reconnaissante. Et troisièmement, je pardonne pour que Dieu me pardonne. Matthieu chapitre 6 nous dit, et c'est la prière de Jésus, « Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. » Et quelques versets plus loin, « En effet, « si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils ont commis, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. » Qu'est-ce que ça veut dire? « Je n'expérimente pas la plénitude de pardon de Dieu envers moi, à moins d'offrir ce même pardon à ceux et à celles qui m'ont fait du mal. » Comment ça? Eh bien, ce n'est pas parce que je mérite le pardon de Dieu, parce que je pardonne aux autres leurs péchés envers moi. Je ne mérite aucune bénédiction de Dieu. C'est simplement parce que je ne peux vraiment pas demander pardon à Dieu si mon cœur n'est pas entier envers les autres. Dieu n'œuvre pas à moitié en moi, ni en vous. Il ne permettra pas que je vienne à lui en confessant la moitié d'un péché, tout en retenant l'autre moitié. C'est tout ou rien. Donc, ma confession doit comprendre une attitude de pardon envers les autres. Mon pardon est la mesure du pardon divin. Ça, c'est très profond. Mon pardon est la mesure du pardon divin. Je prouve par mon attitude envers ma sœur ou mon frère dans l'Église que j'ai compris le pardon que je demande à Dieu pour moi-même. Comment demander pardon à Dieu sans l'offrir moi-même aux autres? Si je désire que Dieu me traite avec miséricorde, je prouve la sincérité de ma prière par mon attitude envers celui ou celle qui m'a offensé. Mon pardon est la mesure du pardon divin. Pourquoi pardonner? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le pardon? D'abord, démasquons une fausse conception du pardon. C'est-à-dire, le pardon ôte automatiquement de mon cœur toute peine et met en oubli toute injure ou toute offense qui m'ont été faite. Toutes les blessures sont cicatrisées. Ça, c'est une fausse conception du pardon. Si tu confonds le pardon avec la libération de tout mauvais sentiment, tu as dû souvent être perplexe. L'expérience t'a prouvé que le pardon s'accompagne la plupart du temps d'une certaine crainte ou de méfiance. Va-t-elle recommencer? Puis-je lui faire confiance? Découvrant de tels sentiments en toi, tu as peut-être mis en doute la réalité de ton pardon. Alors, tu as tenté de refouler tes émotions et tu t'es obligé à exercer une confiance ou un amour irréfléchi peut-être envers celui ou celle qui t'a offensé. Ne confonds pas le pardon avec la libération de tout mauvais sentiment. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des paroles comme celle-ci? J'ai honte, mais je ne peux pas oublier. Ou encore, oublie tout ça. Tourne la page. N'arrête pas cet affront. Continue ta vie. Cette façon de parler ou de faire est sans issue. La raison en est simple. Oublier l'événement malheureux, même si c'était possible, empêcherait de pardonner, puisqu'on ne saurait plus ce que l'on pardonne. D'ailleurs, si pardonner signifierait oublier, qu'arriverait-il aux personnes douées d'excellente mémoire? Le pardon leur serait inaccessible. Il s'ensuit donc que la démarche du pardon exige une bonne mémoire et une conscience lucide de l'offense. Sinon, la chirurgie du cœur qu'exige le pardon ne serait plus possible. Suivez-moi dans cette réflexion parce que vous allez dire, ouh, où est-ce qu'elle s'en va avec ça? La chirurgie du cœur qu'exige le pardon ne serait plus possible. Pensez à tout ce que je viens de dire ce matin. C'est une erreur de faire de l'oubli le test du pardon. C'est le contraire qui est vrai. Le pardon aide la mémoire à guérir. Avec lui, le souvenir de la blessure perd de sa virulence. L'événement malheureux se fait de moins en moins présent et obsessionnel. La plaie se cicatrise peu à peu. Le rappel de l'enfance n'inflige plus sa douleur. La chirurgie que Dieu fait à notre cœur fait son chemin quand on est honnête. Un jour, une femme vient voir son pasteur. Elle lui dit, « Monsieur, j'ai pardonné à mon amie pour ce qu'elle m'a fait, mais je ne peux pas oublier l'offense. Je continue de repasser les détails dans ma tête et je ne peux pas dormir. » Là-haut, dans le clocher de l'église, dit son pasteur, il y a une cloche. On la fait sonner en tirant sur une corde. Mais savez-vous quoi? Lorsque le sacristain lâche la corde, La cloche continue à tinter, oui. D'abord, ding, dong, puis de plus en plus lentement jusqu'au dernier dong. Et puis, elle se tait. Je pense que c'est vrai aussi pour le pardon. Lorsque nous remettons nos griefs à Dieu, nous lâchons la corde. Mais si nous tenons cette corde depuis longtemps, nous ne devrions pas être surpris si les vieilles pensées négatives reviennent pendant un bout de temps. Ce sont des ding-dong d'une vieille cloche qui ralentit. Et c'était vrai. Il y avait encore quelques tintements durant la nuit, un couple de ding-dong lorsque le sujet réapparut sur le tapis, mais tranquillement, pas vite pour cette femme, plus rien. Cette femme a appris un autre secret du pardon. Ce que nous apprenons aussi, elle pouvait remettre à Dieu non seulement ses sentiments, mais aussi ses pensées. Un secret très important. Nous pouvons apprendre beaucoup du pardon de Dieu. Nous n'avons pas à éliminer nos souvenirs, ni à prétendre que notre passé n'a pas grande importance. Dieu, l'offensé, se souvient du moindre péché. Mais je vais rejoindre ce que Lise nous a dit tantôt. Nous, 2 Corinthiens 5 nous dit, « Nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui, afin que chacun reçoive ce qui lui revient, selon ce qu'il aurait fait en bien ou en mal pendant qu'il était dans son corps. De plus, tout péché, grand ou petit, mérite la condamnation éternelle. Dieu, l'offensé, est vraiment blessé par le péché. Il nous chérit, mais notre péché lui brise le cœur. Alors pour Dieu, l'offensé, est-ce que le pardon est une perte de mémoire? Est-ce un effort de devenir insensible à sa vive souffrance causée par mon péché? Non. Le pardon de Dieu annule ma dette de me donner l'occasion de rétablir la relation brisée par le péché. Tout le thème biblique du pardon, tourne autour de l'offenseur et de sa dette. C'est une notion juridique. Je te fais grâce de lire tous les versets que j'ai cherchés où le mot péché est utilisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai fait des recherches sur une centaine de mots dans les dictionnaires hébreux et grecs et tous les mots employés pour désigner le pardon de Dieu et le pardon humain le prouvent. Pardonner n'est pas l'équivalent de l'oublier. Pardonner veut dire annuler sa dette, ne plus en tenir compte. Psaume 103, verset 12 dit « Dieu est entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest ». Michée 7 dit « Une fois encore, tu auras pitié de nous, tu ne tiendras pas compte de nos fautes, tu jetteras nos péchés au fond de la mer. » Dieu n'entretient pas, ça c'est le mot qui nous rejoint, Dieu n'entretient pas le souvenir de nos péchés. Et c'est la même chose pour nous sur le plan humain. La présence de peine et de colère n'est pas la preuve ultime d'un manque de pardon. Alors, vois dans le pardon l'acquittement du coupable. Le temps apaisera tes sentiments, les ding-dong. Mais, si j'entretiens le souvenir des blessures reçues et nourris mon ressentiment, je n'ai pas pardonné. Je reste prisonnière de mon passé. Alors, mettons de côté cette fausse conception du pardon, c'est-à-dire que le pardon ôte automatiquement de mon cœur toute peine et met en oubli toute injure. Alors, qu'est-ce que le pardon? D'abord, le pardon est plus qu'un acte de volonté. Voici 2 scènes familières. La première, c'est celle-ci. Un fils est mis en demeure de demander pardon à sa sœur pour avoir fouillé dans son journal intime et l'avoir ensuite taquiné sur ses amourettes. Une autre scène familière, une enseignante sépare deux enfants qui se disputent dans la cour d'école et les oblige sur le champ à se demander pardon mutuellement. Notre première idée du pardon n'est-elle pas née d'expériences semblables de l'enfance? Sans aucun égard pour le vécu émotionnel de l'enfant, le pardon était réduit à un simple acte de volonté capable de régler tous les conflits d'une manière instantanée et définitive. Les lèvres le prononçaient, mais le cœur n'y était pas. La volonté est, bien sûr, appelée à y jouer un rôle dans le pardon, mais elle n'accomplit pas seule le travail du pardon. Toutes nos facultés sont immobilisées dans le pardon. C'est pourquoi le pardon est profond et difficile. La sensibilité, le cœur, l'intelligence, l'imagination, le jugement et la foi. Donc, le pardon est plus qu'un acte de volonté. Deuxièmement, pardonner n'exige pas qu'on renonce à ses droits. Ça, c'est toute la question des rapports entre la justice et le pardon qui est soulevée ici. La justice s'occupe de rétablir sur une base objective les droits de la personne lésée. Le pardon relève d'abord d'un acte de bienveillance gratuite. Ce qui ne veut pas dire qu'en pardonnant, je renonce à l'application de la justice. Pensons aux hommes qui demandent le divorce à leur femme, tout en lui refusant de toute compensation pour ses 20 ans de travail et de mariage. Le pardon qui ne combat pas l'injustice, loin d'être un signe de force et de courage, en est un de faiblesse et de fausse tolérance. Cela encourage la perpétuation du crime. C'est ce que certains évêques dans l'Église catholique romaine n'avaient pas compris, n'est-ce pas, lorsqu'après avoir été informés d'abus sexuels de la part de l'un ou l'autre membre de leur clergé, ils n'ont pas intervenu à temps et avec vigueur. Je vous rappelle aussi la charte du pardon de nos Premières Nations dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le pardon n'exige pas qu'on renonce à ses droits, que ce soit sur le plan national, d'Église ou personnel. Troisièmement, le pardon est une réalité que j'accorde à mon offenseur. Le pardon annule sa dette envers moi. Je n'en tiens plus compte. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le thème biblique du pardon tourne autour de l'offenseur et de sa dette. C'est une notion juridique. Dieu annule ma dette. J'annule ta dette envers moi. C'est une réalité que j'accorde à mon offenseur. Quatrièmement, le pardon ne s'opère pas dans le secret de mon cœur. Le pardon ne s'opère pas dans le secret de mon cœur. Ne confonds pas le pardon avec la remise de nos griefs, de notre colère ou de notre haine à Dieu. Cette remise à Dieu dont j'ai parlé tantôt a été le préalable du pardon, le début de la guérison et la blessure de l'offense. Le pardon donné est l'événement entre au moins deux personnes qui culminent dans la demande de la rémission de la dette par l'offenseur et la rémission de la dette ou le pardon offert par l'offensé. Donc, si ça ne s'opère pas dans le secret de mon cœur, si c'est une réalité que j'accorde, cinquièmement et dernièrement, le pardon nécessite la repentance. Je vais vous citer l'exemple employé dans le livre « Le pardon et l'oubli » de Jacques Buchtold. Une femme avait été dans l'église, avait été calomniée, c'est-à-dire on a dit des mensonges à son sujet, calomniée par des personnes influentes de son église. Ses critiques avaient totalement ruiné sa vie spirituelle et sa haine et son découragement la conduisirent à s'adonner à la boisson. Mais aucun de ses calomniateurs ne vint lui demander pardon ou se repentir. Finalement, sur le conseil avisé de quelques amis, elle prit une carte de la ville et commença à bénir chaque personne qui s'était dressée contre elle. Et c'est en bénissant ceux qui l'avaient maudite qu'elle retrouva sa liberté. On ne vient jamais lui demander pardon, et à présent, l'Église l'entoure de son affection. Voyez-vous le problème? La dame et ses amis ont confondu la dette et la blessure ou la remise de ses griefs. La dame a soigné la blessure. Elle a remis ses griefs à Dieu en bénissant chaque personne, mais les torts objectifs, les calomnies, n'ont jamais été traités à cause d'une conception du pardon sans repentance. L'événement du pardon n'a pas eu lieu. La dette n'a pas été enlevée. On s'est contenté de ne plus en parler. Ne fréquentait-elle pas la même église que ceux qui l'ont calomniée? Le modèle divin du pardon exige la repentance, notre repentance. Pourquoi Dieu la demande-t-il? Il nous demande la repentance d'abord pour le bien de l'offensé, donc pour mon bien. Pensez à votre propre salut. S'il n'y a pas repentance, on donne raison à l'offenseur. Cette situation de la dame dans l'église. Personne n'en parle, les calomnies n'ont pas été confessées. S'il n'y a pas repentance, on donne raison à l'offenseur. Les fausses accusations ont dénigré cette dame. La repentance des responsables l'aurait justifiée dans les yeux de tout le monde. Mais celle-ci n'a pas eu lieu et le mensonge demeure telle une vérité. La repentance, c'est avouer s'être trompé. Dieu ne peut pas pardonner nos péchés si nous ne repentons pas. Le pardon est un don gratuit de l'offensé qui annule la dette du coupable. Mais l'entrée dans cet état de grâce est conditionnelle à la repentance. Je peux t'inviter à souper chez moi, mais t'interdire l'entrée tant que tu n'auras pas enlevé tes chaussures crottées. La porte est ouverte, je vous accueille, je désire sincèrement que tu entres, mais tu ne pourras pas le faire avant d'avoir enlevé tes souliers. Alors Dieu demande la repentance pour le bien de l'offensé. Deuxièmement, Dieu exige la repentance à cause de l'offense. Dieu ne cautionne pas le mal. Nous ne devrions pas l'approuver aussi, non plus plutôt. Autrement, si nous cautionnions le mal, on donne l'impression que l'on peut s'endetter sans jamais payer. Calomnier quelqu'un quand on veut. Les conséquences en sont sérieuses si on s'arrête pour y réfléchir. Troisièmement, pourquoi Dieu demande la repentance? Le modèle divin exige le pardon par amour pour l'offenseur. Pardonner sans exiger de repentance peut donner l'apparence de la grâce, mais en réalité, c'est manquer de compassion. La repentance de l'offenseur serait quoi? Sa délivrance. Car son péché fait d'abord mal à lui-même. L'amour le plus profond doit chercher de toutes ses forces le bien de l'autre, écho du salut que Dieu nous offre, par amour pour l'offenseur. Pour pardonner à celui qui m'a offensé, il faut de l'humilité et du courage. L'humilité indispensable naît de la profonde connaissance que j'ai de mon propre péché. Si j'ai compris que mon péché est aussi détestable que celui de mon ennemi, et si j'ai goûté à la grâce de Dieu qui m'a relevé, j'aurai le courage d'entreprendre la démarche du pardon. Je m'arrête là. Cet après-midi, on va regarder quelle est la démarche du pardon et la réconciliation.